à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'agité du local. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 septembre. Je suis très heureuse de reprendre une semaine d'émission avec vous. Toujours autour de l'actualité mayonnaise, on va entendre un reportage retour d'un spectacle du Chaînon Manquant qui a eu lieu, festival de spectacles d'art vivant qui a eu lieu toute la semaine dernière à Laval Échangé. On va entendre aussi le président de France Alzheimer Mayenne juste la veille de cette journée mondiale dédiée à cette maladie. Et puis en fin d'émission, nous commencerons un feuilleton autour des sportifs mayennais, justement les sportifs mayennais qui ont été aux JO et aux Jeux Paralympiques aussi, avec un premier portrait, celui de Sunkamba Sila. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité. La Mayenne est toujours en vert au niveau épidémique. Le département connaît un taux d'incidence de 39 cas pour 100 000 habitants. Pour autant, la campagne de dépistage se poursuit, notamment à Laval, à la salle du palindrome de 9h à 13h de mardi à vendredi, de 15h à 19h aujourd'hui à Cran, à la salle des fêtes du Mûrier à Mayenne, et à la salle du Mûrier donc à Cran, et puis à Mayenne, ce sera sur le parking des halls du parc des expositions demain, et à Château-Gontier, à la halle du Haut-Anjou, ce sera jeudi. Château-Gontier, où le docteur Dominique Morin a été récompensé de la Légion d'honneur samedi. Légion d'honneur remise par l'actrice Mylène de Mongeau qui a échappé à la mort après avoir attrapé le coronavirus en avril 2020. Dominique Morin est médecin échographiste depuis 30 ans et présidente du collège médical du groupement hospitalier Mayenne et Haut-Anjou. 1 euro suffit pour prendre le car mercredi dans la région. Une opération menée par le réseau régional de transport Aléop Pays de la Loire. Le tarif est valable sur toutes les lignes de car Aléop, hormis les scolaires. Mercredi, vous pourrez aussi prendre le TER et les lignes de car régionales 7, de 12 à 18 et 26 pour 5 euros. Près de 600 participants au triathlon VNB à Château-Gontier. Sur la distance Rennes, le triathlon M, l'Angevin Nathan Menant est arrivé en tête en 1h56. Record battu après avoir parcouru 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Chez les femmes, c'est une Mayennaise, Amandine Baudin, qui l'a emporté en 2h23. Et de 3 pour les tangos. Le Stade Lavallois a décroché la victoire face au Mans vendredi soir en s'imposant 2-1 dans le derby du Maine grâce à un doublé de Geoffrey Durban. Plus de 8000 personnes aux Journées du patrimoine à Laval, un niveau de fréquentation quasiment équivalent à 2019. Cette année, les bains-douches et le vieux château notamment ont été plébiscités par les visiteurs, tout comme l'ancien jardin de la Banque de France, ouvert pour la première fois cette année. 11 000 spectateurs au Chaînon Manquant. Le festival de spectacles vivants à Laval Échangé retrouve une très belle fréquentation pour cette 30e édition, équivalente à celle de 2019. Et parmi les 71 spectacles proposés tout au long de la semaine dernière, on a vu pour vous au Théâtre Jean Massé Anticyclone, Autofriction familiale autour de la guerre d'Algérie, de la compagnie Alors c'est quoi ? Un seul en scène très poignant, créé en 2019 par Lydie Ledeuf, qui a fait forcément réfléchir sur la mémoire, les mémoires et l'histoire de la guerre d'Algérie.
Ma grand-mère s'appelle France. France Thomas, née France Lotte, le 15 mars 1933, dans le nord-est algérien. Elle a grandi dans un petit village qui s'appelle aujourd'hui Serraldi. Et à l'époque française, ça s'appelait Bugeaud. Bugeaud, le nom d'un maréchal connu du temps de la conquête de l'Algérie, très célèbre pour ses enfumades.
Je m'appelle Lydie Ledeuf, je suis comédienne et j'ai écrit un spectacle qui s'appelle Anticyclone, Autofriction familiale autour de la guerre d'Algérie. Le premier déclencheur, en fait, ça a été le silence et le besoin de remplir ce silence, en fait. Donc de commencer à questionner ce moment de l'histoire, en fait, que ma famille a vécu et pour laquelle elle restait vraiment muette. Donc j'ai commencé un petit peu à titre privé à questionner ma grand-mère qui en plus s'appelle France, c'est quand même un joli cadeau de nom de personnage. Et puis petit à petit, en fait, au moment de l'Alzheimer de mon grand-père, elle a commencé à me parler de l'Algérie et je me suis dit, pourtant j'étais très jeune à l'époque, je me suis dit c'est quand même étonnant qu'il y en ait un qui perde la mémoire et l'autre qui retrouve la mémoire. Puis petit à petit, les années ont passé et ces histoires d'Algérie, ça devenait vraiment récurrent. Ma grand-mère, puis dans la culture pied-noir, il y a l'importance de l'alimentation, les recettes. Quand on est une femme, en plus, on nous transmet ces recettes. comme m'a dit mon frère, c'est bien aussi de les passer aux hommes qui cuisinent. Donc voilà, mais disons que c'est beaucoup passé par la cuisine et dans la cuisine. Tout ça se raconte dans la cuisine. Petit à petit, en fait, j'avais pas assez de réponses avec cette grand-mère qui tournait toujours autour de sa propre vie, donc j'avais besoin de comprendre quelles avaient été les positions des autres. Et donc, à travers les premières paroles de ma grand-mère, France, et puis d'autres hommes, ses neveux que j'ai rencontrés, ma mère, qui est née en Algérie et qui avait très peu, mais vraiment très peu de connaissances de sa propre histoire, en fait, de pourquoi elle était née là-bas, de qui était arrivé en premier, de sa famille, qu'est-ce qu'il faisait, quelle avait été la position de sa famille. Et cette histoire rattrape, parce que évidemment que quand on est français ou algérien, nos pays, nos destins sont liés. Et aussi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'à l'école, ce qu'on m'en disait, ça se résumait à trois phrases. Et je ne comprenais pas en fait pourquoi à l'école on n'en parlait pas, pourquoi à la maison on n'en parlait quoi. Donc à force de ne pas parler, s'ils ne parlent pas comme ça, c'est qu'il y a un problème. Et donc, petit à petit, j'ai fait un peu le tour de la famille. J'ai évidemment lu un peu, j'ai découvert ce qui s'était passé. Et il y a eu un deuxième choc, c'est quand j'ai lu la question d'Henri Allègue. Là, vraiment, je me suis dit, mais il faut à tout prix que je raconte l'histoire de ma famille. C'est plutôt d'offrir mon questionnement au public et de me dire que si moi, je me suis questionnée, peut-être que je ne suis pas la seule. Et que moi, mon malaise dans cette histoire, peut-être qu'il est partagé aussi par des gens de la génération de ma mère, de la génération de ma grand-mère, peut-être des plus jeunes qui ne connaissent pas non plus, parce que pour avoir été dans des classes, il n'y a pas non plus beaucoup de pages qui ont été rajoutées au livre d'histoire concernant cette période. Donc c'est aussi peut-être un petit appel pour, je ne sais pas, d'ouvrir un peu cette période-là et de la raconter, parce que c'est très important qu'on puisse vivre un peu en paix avec cette histoire. Et puis aussi, ça a des répercussions sur notre quotidien, parce que on vit avec des petits-enfants de cette période-là, que ce soit du côté français ou du côté algérien, qui sont venus habiter en France ou qui sont encore en Algérie, et on a des liens. Donc il faut expliquer en fait ce qu'a fait la France et laisser parler. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient eu besoin de s'exprimer, qui ont encore besoin de s'exprimer. Puis quand j'ai commencé à réfléchir à cette idée, je me suis dit, ah, il y avait quelque chose de très frais aussi avec le texte, avec toutes ces personnes qui étaient trop proches de moi, comme si j'avais besoin d'aller au bout de cette aventure qui fait sens en fait, de poupée russe en fait, de dire ben, moi je suis la petite dernière, la toute petite dernière poupée qui s'ouvre pas, et toutes les autres grandes qui se sont ouvertes, donc ça doit être moi. Heureusement, j'avais prévenu un peu ma mère. Elle est dans le spectacle, donc en plus, elle n'est pas complètement fidèle à ma vraie mère. Mais oui, elle l'a vue. Et puis, sur ma famille, ça a eu un impact très direct. C'est que tout d'un coup, il y a des souvenirs qui sont remontés. Un jour, elle m'a dit « Je comprends enfin pourquoi pendant des années, j'avais une angoisse de me coucher dans le noir. » Parce qu'elle s'est souvenue tout d'un coup, après avoir vu mon spectacle, que quand elle se couchait dans la chambre d'enfant, donc elle avait 6 ans, elle me disait « Mes parents éteignaient et nous, on avait peur parce qu'on entendait la guerre dehors. »
Puis je prends l'avion, c'est la nuit, et je pars d'un village de montagne. Et je dois retrouver Saïd. Je cours à travers les dédales de ruelles du village, et au bout d'un chemin, je m'envole. Et je me retrouve nez à nez avec Jean-Marie Le Pen qui met son maillot de bain pour plonger dans l'eau avec moi. Ah!
Et comme cet extrait que vous venez d'entendre, il y a aussi de l'humour dans ce spectacle, au thème qui peut paraître assez lourd. Lydie Ledeuf espère aussi avoir été repérée par quelques-uns des 320 programmateurs présents sur le festival pour pouvoir ensuite étoffer sa tournée. Demain, ce sera la journée mondiale de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. On en parle dans 3 minutes, juste après avoir écouté The Fratellis avec Need a Little Love.
Lived in black and white. If I don't have you, oh, you can make. slip out of your atmosphere. Now it's clear if you reappear. I pray softly, and then maybe you could break this spell.
Little Love, The Fratellis, dans l'agité du local sur l'autre radio. Comme évoqué juste avant cette pause musicale, demain, 21 septembre, ce sera la journée mondiale de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. L'occasion justement de faire le point sur cette maladie neurodégénérative qui touche près d'1,2 million de personnes en France. Et pour en parler avec nous aujourd'hui en studio, Paul Chouanet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association France Alzheimer ici en Mayenne. Et c'est vrai qu'on a tous entendu parler globalement de cette maladie, qu'on peut avoir des proches qui sont touchés. Mais on va déjà commencer par faire le point un petit peu sur cette maladie. Qu'est-ce que c'est ? Quels en sont les symptômes ?
Oui, c'est une maladie donc neuroévolutive, c'est-à-dire une dégénérescence avec la mort des neurones progressivement. Et elle se caractérise surtout par une première plainte des personnes autour de l'oubli. Les personnes se plaignent d'oublier. En fait, il s'avère plutôt que c'est le stockage qui n'existe plus. Et comme on n'arrive plus à ranger dans sa mémoire, évidemment, on ne peut plus rappeler. D'où cette plainte autour de l'oubli. Ensuite, il existe parfois aussi des difficultés autour du langage. Je ne trouve plus mes mots, je cherche mes mots. J'ai des difficultés à trouver une expression facile et fluide au niveau des phrases. Et puis, parfois aussi, j'ai plus de mal à m'organiser. La personne a plus de mal à s'organiser au niveau de la vie quotidienne. Elle va avoir du mal à évoquer des projets, à dire ce qu'il faudrait prévoir dans ses courses dont elle pourrait avoir besoin d'ici quelques jours, etc. Et puis, cette difficulté aussi petit à petit à organiser sa maison, hein, organiser le linge, le ménage, la nourriture, la cuisson des aliments, des difficultés autour de tout ça et du rangement. La personne commence à ranger précieusement dans des endroits qu'elle va oublier, des choses auxquelles elle tient et après beaucoup les rechercher.
Est-ce que dans ces cas-là, le diagnostic il est fait maintenant assez tôt ? Puisque je pense que c'est important aussi dans la prise en charge de la maladie.
Oui, tout à fait, vous avez raison. L'importance d'un diagnostic précoce, le plus précoce possible. Parce qu'aujourd'hui, il est démontré que plus on va entretenir sa mémoire, continuer de la stimuler, continuer de la faire penser, réfléchir, tout cela va retarder, freiner beaucoup l'évolution de la maladie. Et puis aussi, le fait de vouloir être diagnostiqué de façon le plus tôt possible va aider à rencontrer un médecin, à écouter, d'avoir un soutien au niveau médical, d'avoir aussi un soutien au niveau social, un soutien aussi sur le plan financier s'il y a besoin d'aide.
Et c'est vrai que dans l'image qu'on a, on imagine des gens qui sont très dépendants, très âgés aussi. Est-ce que c'est vraiment le profil qu'on peut retrouver ?
Non, la maladie d'Alzheimer, lorsque le diagnostic est posé, très souvent, hein, il est connoté très négativement dans notre société. On en voit une maladie qui est rapidement évolutive, ce qui n'est pas le cas, et qui est rapidement aussi faire entrer la personne en situation de dépendance, ce qui n'est pas non plus toujours le cas. Bien sûr, hein, la maladie va évoluer petit à petit puisque cette déperdition de neurones va s'accentuer petit à petit. Mais il y a plusieurs années où la vie reste encore possible, où la vie en société reste encore possible, où la vie dans la cité est encore possible, où la vie dans les relations familiales et sociales reste tout à fait possible.
Donc ça c'est possible, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est diagnostiqué malade d'Alzheimer que forcément il va falloir une prise en charge dans un EHPAD ou une unité spécialisée.
Pas nécessairement. Nous, dans notre association, nous avons de nombreuses familles où les proches restent à domicile, restent à la maison. Lorsque c'est possible, chaque maladie évolue à sa façon, je dirais. Chez chaque personne, l'évolution va être différente. Et donc, la façon de perdre son autonomie va être très, très différente selon les personnes. Nous avons des familles que nous connaissons où les personnes sont atteintes de maladie d'Alzheimer avec des diagnostics qui datent de plus de 15 ans et qui sont encore chez elles et qui ont encore, par exemple, la marche, le déplacement possible.
Puisque toutes ces activités-là, la marche, l'activité physique et puis aussi des stimulations, en fait, qu'elles soient physiques ou même intellectuelles, ça aide et c'est très important justement.
Oui, absolument. Déjà, il y a une chose importante, c'est toute l'importance du médecin traitant pour vraiment s'occuper de soi, s'occuper de ces maladies parfois existantes. Lorsque l'on vieillit, certaines pathologies vont apparaître, certaines difficultés du fonctionnement, je dirais, purement mécanique de notre organisme, petit à petit vont voir le jour. Et il est très important de soigner ces maladies. Des maladies aussi que l'on ne voit pas, par exemple un diabète, une hypertension, du cholestérol, toutes ces pathologies, le médecin sait traiter ces maladies et va savoir accompagner le meilleur état physique possible et le meilleur état circulatoire parce que notre cerveau a énormément besoin d'oxygène et c'est apporté par notre sang. Donc traiter bien les maladies cardiovasculaires, le cholestérol, l'hypertension, c'est quelque chose de très important pour la personne.
Donc aussi, toutes les maladies, c'est-à-dire que où il peut y avoir des comorbidités, c'est-à-dire que ça va se rajouter à la maladie d'Alzheimer. Alors, je ne sais pas dans quel sens ça peut marcher,
oui,
mais en tout cas,
oui,
que la personne a plusieurs pathologies
oui,
en même temps.
Oui, vous expliquez bien. Oui, tout à fait. On sait aujourd'hui statistiquement que le diabète multiplie par un facteur de 5 à 6 le risque de maladie d'Alzheimer. Donc, c'est très, très important de soigner parfaitement cette maladie. Les maladies circulatoires aussi augmentent énormément le risque. Donc, il faut absolument prendre soin de soi et se soigner.
Donc ça fait partie aussi de la prévention pour essayer... Donc, non seulement une fois qu'on a été diagnostiqué, pour ralentir peut-être la progression de la maladie, mais aussi pour, même si on n'a pas été diagnostiqué, éviter.
Absolument, absolument. Aujourd'hui, on insiste beaucoup avec toutes les préventions au niveau alimentaire. On parle beaucoup de 5, par exemple, fruits et légumes par jour. On parle beaucoup de diminuer certaines denrées qui peuvent être aussi un peu gênantes pour l'évolution de notre santé. Et donc, l'abus de sucre, par exemple. Et donc, toutes ces questions doivent être absolument prise en compte déjà dans notre avancée en âge, tous les uns et les autres. Mais par rapport à la maladie d'Alzheimer, on sait aujourd'hui que soigner toutes ces maladies, être assidu et observant dans toute la prise de ces traitements, ça veut dire aussi parfois être accompagné puisque c'est une maladie de l'oubli. Et donc c'est important d'être accompagné pour les médicaments par exemple. C'est savoir aussi continuer d'avoir une relation sociale. On dit aujourd'hui qu'il faudrait rencontrer au moins 4 à 5 personnes par jour. Pas toujours physiquement, peut-être par téléphone, peut-être par les méthodes aujourd'hui d'Internet, etc. Tous ces outils numériques. Mais il est très très important de garder du lien social. Il est aussi très important de prendre de l'information, de regarder la télévision, d'écouter la radio pour entendre des idées et dire vis-à-vis de ce que j'entends, qu'est-ce que je pense.
Pour rester aussi connecté aux autres, à la société finalement.
Absolument. Et comment mon cerveau, même avec cette pathologie, peut encore avoir sa propre idée, sa propre pensée. Qu'est-ce que moi je pense de ça ou de ça? Quelle idée j'ai de ça? Quels sont ce à quoi j'ai toujours tenu par rapport à cela? Etc, etc.
Et est-ce que justement le fait de réfléchir à l'actualité ou faire réagir en tout cas, ça peut être le thème par exemple des cafés mémoire que vous proposez tout au long de l'année ?
Oui, absolument. Oui, le café mémoire, c'est un temps de convivialité en fait, où est accueilli à la fois le proche et à la fois la personne qui vit avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Alors évidemment, nous sommes au café, nous discutons parfois d'un sujet plus précis ou d'un autre, mais la grande majorité du temps, nous sommes au café. Et évidemment, il est question des affaires de comptoir. C'est-à-dire, on entend ce que dit la radio, ce que disent les journaux, quand on est en période électorale, évidemment, il est question d'élection. Quand on est en période de Coupe d'Europe de football, il est question de football. Lorsqu'on est en élection, actuellement, ça s'approche, il en sera évidemment question. L'objectif est d'échanger, de discuter, de se revaloriser, de se restaurer soi-même dans sa propre histoire, avec nos valeurs, des uns et des autres, des avis contraires, ce qui est tout à fait normal, mais échanger, discuter, remanier des idées pour entretenir son cerveau.
Et il y a d'autres ateliers aussi que vous proposez un petit peu dans la même veine, on peut dire. Donc là, on parlait des cafés mémoire. Il y a aussi, j'ai lu, du chant choral, du tennis de table, de la relaxation, assez varié finalement, mais toujours dans l'idée de bouger.
Oui, absolument, absolument. L'exercice physique est primordial pour notre circulation. Mais pourquoi le tennis de table dans la maladie d'Alzheimer ? Parce que le tennis de table, c'est d'abord une posture d'équilibre, cultiver la statique, restaurer des capacités aussi de réaction, une coordination très importante entre l'œil et la main. Et donc tout ça demande en fait une gestuelle qui va permettre de continuer d'entretenir notre cerveau et surtout de continuer aussi le maintien de nos apprentissages. Notre équilibre et la marche peuvent être altérés par l'évolution de la maladie. Donc c'est important de continuer cela et puis de continuer aussi tout ce gestuel des bras, de la partie supérieure du corps, avec aussi cette agilité œil-main, de façon à pouvoir garder les réflexes. Notre cerveau, il ne s'use que si on ne s'en sert pas. Pour prendre un slogan à l'envers d'une marque célèbre du passé. Et donc, moi, je trouve que c'est très, très important d'avoir cette activité. Vous avez évoqué le mot relaxation. C'est pour les aidants plutôt, parce que les aidants, c'est compliqué d'être aidant au quotidien, parce que quelqu'un qui sans cesse oublie va répéter la même question, relancer sans arrêt la même demande. Et quand on est proche aidant, ça peut être difficile d'entendre sans cesse la même question. Et donc, oui, et puis il y a les soucis aussi durant les réveils nocturnes, durant la journée qui se déroule avec plus ou moins bonne humeur, si je peux dire, à certains moments. Et donc, l'aidant, on offre là aussi des séances de relaxation pour pouvoir se restaurer soi-même, retrouver du sens, retrouver aussi son sommeil. Notre activité principale en relaxation, c'est de retrouver le sommeil rapidement lorsqu'on a été réveillé la nuit. Le deuxième point important qui est travaillé, c'est d'essayer de ne pas ajouter du stress au stress quand le stress arrive. Et puis la troisième chose qu'on travaille aussi en relaxation, c'est comment en fait se détendre soi-même, se décontracter, en fait retrouver son calme intérieur.
Donc ce soutien aux aidants qui est très important par ces ateliers, mais même autrement, j'imagine que ça fait partie des missions de l'association.
Oui, tout à fait. On considère aussi que pour les personnes malades, vous avez évoqué tout à l'heure la musicothérapie, le chant choral. Pourquoi ? Parce que ces capacités sont conservées très très longtemps. La capacité de la musique et du chant demeure très longtemps. Monsieur Platel, un chercheur à l'université de Caen, a essayé de démontrer pourquoi c'est très très important de cultiver la musique et le chant chez les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. C'est une capacité qui demeure jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, cette capacité-là, elle est mise en œuvre avec d'autres activités de la mémoire. Les ateliers mémoire de France Alzheimer Mayenne, c'est entretenir la mémoire, les associations d'idées, cultiver en fait le fonctionnement. C'est aussi travailler le langage, parce qu'on sait que la personne atteinte peut parfois chercher ses mots. C'est aussi travailler l'attention, la concentration, parce que ça, c'est une vraie difficulté. Et puis, on travaille aussi l'orientation, savoir où je suis et quand nous sommes. Parce que pour la personne, ces deux questions-là lui font naître beaucoup de stress.
Donc c'est d'où le thème en tout cas utilisé lors de ces ateliers, et ce soutien toujours très important de stimulation. Ça aussi, on l'a dit, c'est vraiment presque le mot-clé pour les personnes touchées. Puisqu'on l'a dit, pour l'instant, il n'y a pas de traitement qui a été trouvé à cette maladie. Mais en tout cas, on l'a dit là aussi, demain, ce sera la journée mondiale de sensibilisation à cette maladie. Et ici aussi, en Mayenne, vous marquez le coup, si je puis dire, puisque un arbre sera planté dans le parc de la Maison de l'Autonomie demain matin. Et vous me disiez qu'un arbre, ce n'était pas un choix qui avait été fait par hasard.
Oui, pourquoi un arbre en fait ? Parce que dans les maladies neuroévolutives, la difficulté, elle est surtout identitaire. La personne se questionne beaucoup sur le d'où je viens, d'où l'importance de ses propres racines, et puis aussi sur qu'est-ce que je fais là, c'est-à-dire cette partie extérieure de l'arbre qui est la personne dans tout son environnement. et comment en fait elle est à la fois interactive avec tout cet environnement. Et donc l'arbre nous paraît une symbolique intéressante et nous avons proposé à monsieur le président du conseil départemental de planter symboliquement un arbre dans le parc de la maison départementale de l'autonomie 12 quai de Boutz à Laval. Et donc ça c'est pour permettre, et il a tout à fait accepté, nous l'en remercions, et ensemble nous planterons cet arbre demain à 11h. Évidemment tout le monde est invité à ce temps fort là de cette journée. Nous offrirons aussi pour tous les gens qui passent une nombreuse documentation, hein. Qu'est-ce que c'est que cette maladie, qu'est-ce que c'est que d'autres maladies apparentées, comme par exemple une maladie à corps de Lévy, des mots un peu techniques, tout ça nous pourrons en parler. Nous pourrons aussi reparler des ateliers que nous proposons et des actions que nous menons, à la fois auprès des personnes proches qui aident au quotidien et à la fois aussi pour les personnes qui vivent cette maladie. Il faut savoir qu'à France Alzheimer, toutes nos activités sont gratuites. Nous accueillons les personnes gratuitement dans tous les ateliers, toutes les manifestations que nous offrons.
Et donc ça, on pourra se renseigner demain de 10h à 16h, puisque vous serez effectivement dans ce parc de la Maison de l'Autonomie à Laval. Si jamais on ne peut pas se déplacer demain, comment est-ce qu'on peut vous contacter ?
Oui, donc nous avons un numéro de téléphone, hein, nous avons un siège social qui est à la Maison des associations de la ville de Laval et le téléphone est le 02 43 69 06 88. Nous avons aussi un site internet, hein, francealzheimer.org/Mayenne. Bon, tous les moteurs de recherche vous permettront de rejoindre notre site internet. Et nous avons aussi des permanences à Mayenne, au centre hospitalier, tous les lundis, au centre hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier, deux lundis par mois, hein, le deuxième et le quatrième lundi de chaque mois, dans le hall du centre hospitalier du Haut-Anjou.
Où là, on peut venir aussi vous rencontrer. Merci beaucoup, Paul Chouanet, d'avoir été avec nous.
Merci à vous de nous avoir accueillis.
Pour
merci.
Justement.
Et à demain, tout le monde.
Et à demain, voilà, l'appel est lancé en tout cas demain matin, demain donc de 10h à 16h dans le parc de la Maison de l'Autonomie à Laval. On va parler là du coup de sportifs, mais ce ne sera pas tout de suite. L'importance du sport, eux l'ont bien compris puisqu'ils sont allés aux Jeux Olympiques. Mais ça, ce sera juste après Delgrès avec l'un de mes là. de Delgrès dans l'agité du local sur l'autre radio, c'est ce que vous venez d'entendre. Comme promis juste avant la pause musicale, on part du côté des Jeux Olympiques. Alors non, je sais, les Jeux Olympiques sont terminés depuis un mois, depuis 15 jours même les Jeux Paralympiques, mais les sportifs mayennais, eux, en sont revenus, ceux qui ont participé. Ils sont 5 justement à avoir été sélectionnés pour ces Jeux de Tokyo en conditions Covid, on le sait. Et tous ont reçu samedi la médaille du département de la Mayenne, l'occasion d'avoir leur ressenti, de recueillir un peu leurs impressions quelques semaines après cette compétition exceptionnelle. Et aujourd'hui, on va entendre l'athlète lavalloise Sunkamba Silla, remplaçante pour le 4x400 mètres par équipe. Elle n'a pas couru, mais mesure sa chance d'avoir pu vivre l'expérience.
Je m'appelle Sunkamba Silla, je viens d'avoir 23 ans, je suis née à Laval et je fais mes études que je viens de terminer sur Nantes. Et je m'entraîne au Centre National Nantais. Donc je fais du 400 mètres, 4 fois sélectionnée en équipe de France. Plusieurs podiums en championnat de France et voilà, je fais partie du collectif 4x400 mètres. Alors non, je m'entraîne sur Nantes, mais en fait j'ai gardé mon club sur Laval. Et Laval, je fais juste les allers-retours toutes les semaines pour voir la famille parce que j'aime bien Laval. Là, c'est la ville dans laquelle je suis née, j'y suis attachée, donc voilà. Alors je viens de valider un master en management récemment et là je viens de signer mon CDI il y a 2 semaines. Je suis responsable et je m'occupe de la RSE d'une entreprise de bricolage. Tout ce qui est gestion des déchets, etc. Et en parallèle des entraînements, c'était compliqué l'année dernière parce que j'étais en 35 heures à l'école ou 35 heures en entreprise. Là, j'ai eu la chance, grâce aux résultats que j'ai fait l'année dernière, de pouvoir avoir un aménagement, c'est-à-dire je serai moitié au travail et moitié à l'entraînement, ce qui me permettra de plus m'entraîner normalement. Je vous avoue, moi, quand je suis revenue, j'étais un petit peu perdue. En fait, je réalisais pas d'avoir fait les Jeux, d'avoir réussi un de ces gros objectifs que je m'étais fixé pour la fin de ma carrière. Et c'est vrai que après ça, j'avais besoin de partir en vacances, de me ressourcer et de me dire ouais, ok, ça y est, c'est fait. C'était une expérience incroyable. Moi, honnêtement, j'avais pour objectif de participer aux Jeux 2024. Je m'étais dit que les Jeux de Tokyo, ça allait être compliqué, étant donné que j'étais assez jeune, j'ai 22 ans. Et c'est vrai que le fait d'avoir été sélectionnée, c'est quand même une grande étape dans ma carrière sportive. Après, malheureusement, j'ai pas pu courir, mais je me dis que j'ai quand même eu la chance d'y aller, de faire le camp d'entraînement avec les filles, d'être sur le terrain olympique, et que c'est une première étape, j'espère, dans la réussite de mon objectif. C'est frustrant aussi parce que j'étais dans un bon état de forme là-bas. On avait des tests à réaliser avec les autres filles de l'équipe avec qui j'étais. Mais je me dis, mieux vaut y aller et vivre l'expérience à fond, bien que je ne puisse pas courir, plutôt que de ne pas y aller et de ne pas voir ce que c'est les Jeux Olympiques dans un autre pays. Je suis allée au village olympique. Normalement, les remplaçants ne sont pas au village olympique. Là, j'ai eu la chance d'y aller. J'étais vraiment... Je faisais vraiment partie de l'équipe, j'ai vraiment fait les Jeux Olympiques, j'ai juste pas couru. Donc effectivement, c'est, j'espère, un début et que la prochaine étape, ce sera de courir. C'est magnifique, en plus on a l'occasion d'avoir normalement nos proches avec nous et c'est les Jeux à Paris. Donc là, l'objectif est gros et c'est clair qu'on a tous envie d'y aller, quoi. Alors avant Paris 2024, il y a les championnats du monde, il y a les championnats d'Europe, il y a les Jeux de la francophonie. Franchement, on est servi, si toutes les compétitions sont maintenues, il y a de quoi faire, je pense.
Objectif 2024 déjà pour la plus jeune athlète du département, avoir participé aux Jeux de Tokyo. C'était aussi une première pour le marcheur Gabriel Bordier que vous entendrez demain. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour aujourd'hui. À suivre à l'antenne à 19h, il y aura Solénoïde, suivi à 20h de la discothèque de Morgane. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.